Ce que tu dis n'a aucun sens.
Il y a d'autres questions ?
Bonjour et bienvenue dans Faites Entrer le Film, épisode 76. Bonjour Olive.
Salut Doudou.
Comment ça va ?
Ça va super bien, j'ai des courbatures partout, car j'ai fait le foufou. Ça va, et toi ?
Ça va. Je prends sur moi pour enregistrer, parce que je viens de recevoir Resident Evil 4. Et comment dire que j'ai plus envie de jouer que de parler de ce film.
Merci, ça fait plaisir. Écoute, on peut décaler, hein. Tu sais, on a sorti l'épisode 75 en retard parce que... Alors, j'en profite pour m'excuser. C'est de ma faute si l'épisode sur YouTube n'est pas sorti en temps et en heure. J'ai tout monté. Il était prêt, l'épisode. J'ai juste oublié de l'upload sur YouTube, en fait. Donc, voilà. Et vu que dimanche dernier et lundi de cette semaine... Enfin, lundi, dimanche 19 et lundi 20, on était avec Kevin et Alexia en tournage toutes les deux jours complets. Le lundi, ça m'est complètement sorti de la tête. Donc vraiment, je suis désolé. Et ça ne devrait plus arriver. Après, l'erreur est humaine.
Ouais, l'erreur est humaine, ouais. Bon.
Oui.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, nous allons suivre les aventures d'un capitaine sans bateau, d'un pirate sans équipage à la recherche de son navire, d'un trésor et d'une vengeance. Bienvenue dans Pirates des Caraïbes.
Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Un film de Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush, Jack Davenport, Jonathan Pryce, avec comme musique de Klaus Babelt et Hans Zimmer. Parce que bon, c'est... Le film est autant connu que sa musique, presque. D'une durée de 142 minutes, sortie en 2003, qui a coûté la bagatelle de 140 millions de dollars et qui en a rapporté 654 millions. Et ce que j'aime bien, c'est que sur Wikipédia, on a 654 millions, 264 000 et 15 dollars.
Il y a les dollars à la aux dizaines près. Waouh.
Ouais, il y a pas de virgule parce que bon, voilà.
C'est ce que j'appelle un compte précis.
Ouais, ce qui est très drôle, moi j'ai trouvé ça assez drôle, c'est que dans la classification aux États-Unis, les PG-13, donc interdits au moins de 13 ans, je crois, s'ils sont pas accompagnés.
OK, ouais.
Et en France, c'est tout public parce que tout public quoi.
Mais parce qu'on n'est pas des fragiles en France.
Et puis parce que pour moi, c'est un film tout public, hein, vraiment.
Ah, pour moi, c'est aussi un film tout public. Alors, je pense que c'est essentiellement les scènes avec les squelettes, etc., qui ont dû poser problème aux États-Unis. Parce que la violence, elle est quand même absente du film, pour moi. Enfin, y a des... C'est un film de pirates, quoi, je veux dire. Donc oui, il y a des sabres. Oui, ça fait cling cling, bang 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 bang, mais...
Très peu de sang, très peu de tout, en vrai. Hein, donc,
Ah oui, tout à fait.
Mais on en parlera un peu plus dans cet épisode. Alors... Conte-moi la première scène.
Eh bien, le film s'ouvre sur un souvenir, ou plutôt un rêve, puisqu'on y retrouve Keira Knightley, petite fille, sur un navire de la Compagnie des Indes avec son père, le futur commandeur. Et il voit au loin de la fumée, il récupère un enfant qui était dans l'eau, hein, puisqu'ils sont en pleine mer. Cet enfant est un petit garçon avec un médaillon aztèque en or massif autour du cou, que la petite fille va s'empresser de lui voler, puisque sinon, le commandeur qui est à bord du bateau veut pendre tous les pirates haut et court, et à première vue, avec le médaillon qu'il a, ce serait un pirate. Sur quoi, Keira Knightley se réveille, et c'est la fin de la première scène.
Et le début de la deuxième scène, enfin non, parce qu'après elle se réveille, il y a des trucs...
Et elle se réveille quand elle est grande, hein, voilà, il y a une ellipse temporelle d'une dizaine d'années, 9 ans.
Voilà, et c'est là où on rencontre Will Turner, donc Keira Knightley, et c'est que la scène d'après où on voit donc Jack Sparrow.
Oui, il est présent, alors que c'est quand même celui qui tient un peu le film, hein, ou en tout cas tout le monde connaît Jack Sparrow aujourd'hui depuis la sortie des films, c'est Pirates des Caraïbes, a.k.a. Jack Sparrow. Et il n'apparaît pas en premier, tout à fait, ouais, il apparaît troisième gros personnage
en vrai,
à être présenté.
C'est vraiment Jack Sparrow 2. Pirates des Caraïbes.
Complètement.
C'est lui qui porte le film. Quand tu penses à Pirates des Caraïbes, tu penses à Jack Sparrow, pas aux autres personnages. Enfin, voilà.
Ouais, je trouve que Johnny Depp est très habité par le personnage. Enfin, vraiment, c'est top, quoi. Et on n'aurait pas pu rêver mieux. Pour moi, vraiment, j'étais comblé. J'aime bien les films de pirates, mais là, c'était le rêve.
Et pour une fois qu'il jouait pas dans un Tim Burton en plus, donc c'est bon.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai qu'il est habité par le. Enfin, il vit le personnage, il est le personnage. Et ça le suivra même après. Parce que dans Lone Ranger, c'est du Jack Sparrow, mais en indien.
Complètement.
Ce personnage lui tient un peu trop à la peau par la suite.
Mais encore, tu dis que c'est Jack Sparrow 2. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl ou quoi. Je trouve. Alors, oui, évidemment, il est mis en avant, c'est la tête d'affiche. Mais comparé à d'autres Pirates des Caraïbes, je pense notamment à La Fontaine de Jouvence, que on a presque envie d'oublier. Donc, c'est le 4, où là, c'est vraiment le Jack Sparrow show à fond. Il n'y en a que pour lui. C'est lui qui est tout le temps présent à l'écran. Il y a quasiment que lui, d'ailleurs. Là encore, ça va. Même si c'est lui qu'on va suivre, principalement, il y a quand même les autres. Toutes les intrigues s'imbriquent bien les unes dans les autres, je trouve.
Ouais, mais la grosse intrigue du film, c'est celle sur Jack Sparrow. Enfin, les autres ne sont que des faire-valoir pour le plan de Jack Sparrow.
Qui ne veut à la base que récupérer son navire.
Oui. Enfin, c'est son. Et puis, jusqu'à la fin, c'est ça. Mais, enfin, son seul objectif, tous les personnages ne sont là que pour rendre possible sa quête.
Ah oui, et ce sera comme ça dans la trilogie originale. De toute façon, Jack Sparrow a toujours un plan qui est souvent tordu, alambiqué et qui repose énormément sur la chance, mais qui fonctionne à chaque fois. C'est un magouilleur de première. C'est un pirate en fait.
Après, dans le 4, c'est donc le truc de Jouvence.
Oui.
Et le 5, c'est la fille de Barbosa.
Ouais, c'est la revanche de Salazar, ouais, tout à fait, que lui aussi, j'aimerais bien oublier.
Il y a un 6 en préparation, d'après ce que j'avais compris.
Ouais, je sais pas si c'est encore tellement d'actualité, mais en tout cas, ils en parlaient avec Margot Robbie, je crois, en tête d'affiche, il me semble.
Oui, enfin, ça va être de la merde encore, mais bon. Ouais. Et donc, on va faire un peu le tour des personnages. Donc vas-y, je te laisse nous parler un peu de Jack.
Jack Sparrow, c'est un pirate qui se retrouve sans navire suite à une mutinerie. On ne sait pas depuis combien de temps la mutinerie a eu lieu. On imagine un certain temps quand on connaît l'entièreté de l'intrigue, dont on
10 ans.
parlera après. 10 ans, voilà. Il arrive à Port-au-Prince sur une barque qui coule. Donc du coup, il amarre un navire qu'il n'a plus en arrivant. Hein. Il est très égocentrique. C'est un personnage qui magouille en permanence, qui, comme je disais tout à l'heure, a des plans complètement tordus. Et il n'hésitera pas à utiliser tout le monde pour arriver à ses fins. À côté de ça, je pense quand même qu'il a un bon fond. Ça se ressent peut-être pas trop dans le premier. Le personnage n'était pas détaillé comme on peut le voir après dans les deux suites. Et en même temps, il a un petit côté pleutre, je trouve, par moment. Et voilà pour Jack Sparrow.
Ensuite, en tête d'affiche, nous avons donc Orlando Bloom qui joue
Legolas!
William Turner, qui est le petit garçon qui est repêché au tout début du film
par la marine anglaise, ouais.
Avec
son médaillon.
Médaillon aztèque là. Et donc, on apprend que c'est le fils d'un pirate qui est mort. D'après ce qu'on nous dit. On se rendra compte plus tard que dans un autre film que bah il le reverra peut-être ou pas.
Peut-être, mais
ah
oui.
S'il le
Si.
revoit,
Ah bah
on
si,
s'en
toute
bat
l'intrigue
les couilles.
va tourner autour du 2 et du 3, il va tourner autour de ça.
Ils ont 20 ans ces films, on spoil. Et donc c'est un personnage je trouve que c'est un peu l'exact opposé de Jack Sparrow.
Oui, tout à fait. Il a une morale, c'est pas un pirate.
C'est ça, il va être droit dans ses bottes. Alors lui, il n'aura pas de plan alambiqué. C'est au plus simple. Il faut que je sauve la princesse, et ben je vais sauver la princesse.
Et si pour ça je dois m'acoquiner avec un pirate, parce que c'est ce qui va se
Ben, je le
passer, et
ferai.
il le fera parce que il faut aller sauver une demoiselle en détresse, qui est son love interest.
Mais voilà. Mais je trouve que leur duo fonctionne pas trop mal.
Oui, ça fonctionne bien.
Ensuite, nous avons Keira Knightley qui joue Elizabeth Swann.
Exactement, qui est la fille. C'est quoi son titre à ce personnage d'ailleurs?
Gouverneur.
Qui est la fille du gouverneur de Port-au-Prince. C'est une rebelle qui est.
Port-Royal.
Port-Royal, pardon, je sais pas pourquoi Port-au-Prince. C'est une rebelle dans l'âme, un garçon manqué, qui est promise au Commodore Norrington, qui a l'air d'avoir au bas mot 20 ans de plus qu'elle. Mais elle a un love interest secret pour Orlando Bloom, évidemment. Et ça va être aussi être la demoiselle en détresse, puisque comment dire, elle va prendre des risques pour que le Black Pearl, à un moment donné du film, arrête de bombarder, de pilonner avec ses canons et de piller Port-Royal. Elle va demander le pourparler et se faire enlever par les pirates. Donc c'est une meuf qui a des couilles, quoi.
Ouais, parce que en détresse, mais pas tant que ça.
Elle finit par être en détresse, mais au départ, elle y va de son plein gré. Elle demande de
Oui,
pourparler
mais elle
de
est en
son plein gré.
détresse au début parce qu'elle est avec eux, mais après elle est casse-cou elle aussi, hein. Elle va s'enfuir du bateau où il y a la marine avec elle pour aller aider Will. Enfin, elle aussi, elle va faire plein de choix qui sont illogiques pour sa propre sécurité, mais elle va le faire aussi parce
Ah,
que c'est le pouvoir de
complètement.
l'amour. Ensuite, nous avons Jeffrey Rush qui joue le capitaine Hector Barbossa, donc le capitaine du Black Pearl. Et on se rend compte que c'était le second donc de l'ancien capitaine du Black Pearl, aka Jack Sparrow.
Oh yeah.
Et moi, alors, je trouve qu'il a ce personnage, enfin. Il est décrit comme étant, avec les morales de la piraterie, hein, c'est un pirate. Tout ce que vous pensez d'un pirate, bah lui, il l'est. Il va tuer des gens, il va truc, mais il va quand même respecter le code de la piraterie.
C'est
Pourquoi on sait
plus un
pas, mais
guide
moi,
qu'un code, hein, mais...
oui, enfin c'est un code. Tu sens que les mecs s'arrêtent quand ils disent pour parler, mais ça va. Une fois que t'es sur le bateau, tu prends quand même tarif. Mais et en plus je trouve que l'acteur a vraiment une gueule. Et c'est pour moi avec Jack Sparrow, parce que Jack Sparrow il est reconnaissable entre tous. Barbossa c'est pareil.
Oui,
Tu le
oui, oui.
reconnais avec son singe.
Oui,
C'est
c'est fait
vraiment.
partie de ces personnages iconiques dès qu'ils sont là, dès que tu les entends parler. Et même Barbosa, t'as même pas besoin de l'entendre parler. Tu sais que les bottes, quand t'entends ses bottes résonner, tu sais que c'est lui en fait, tout de suite.
Ouais,
Il
bah
a un signe
c'est ce qui se
distinctif.
passera dans l'épisode 2, hein.
Oui, à la fin de l'épisode 2, oui, tout à fait, qui est juste le twist m'a flingué, moi, au cinéma. J'avais qu'une envie, c'est de voir le 3, quoi, après.
Ouais, parce que vraiment, bah on va vous en raconter. Ils vont chercher comment il s'appelle, Calypso,
Ouais,
pour lui demander de l'aide
Tia, Mina.
pour retrouver Jack Sparrow. Et il dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut retrouver Jack Sparrow. Et là, on entend le singe, on voit les bottes et Barbossa.
Et fin.
Et là, tu dis ah, frisson. Et le dernier personnage d'importance, on va dire. Dans ce film, c'est Jack Davenport qui joue le Commodore James Norrington. Olive, je te laisse en parler.
James Norrington n'aime pas les pirates. Il est promu Commodore, donc chef de la marine locale. Il a horreur des pirates. Il est en amouraché de comment ça s'appelle? Zut.
Elizabeth Swann.
Elizabeth Swann. Mais bien sûr, c'est un amour impossible puisque elle-même est amoureuse d'Orlando Bloom. Et au moment de l'enlèvement, entre guillemets, d'Elizabeth Swann, il va partir en chasse à la fin, à la fois pour la retrouver elle, mais aussi pour récupérer Jack Sparrow qu'il avait juste avant fait prisonnier. Et encore une
Et
fois, il n'aime pas les pirates.
j'aime beaucoup sa fin où il laisse tomber donc Jack Sparrow, il laisse tomber Elizabeth Swann. Le mec, c'est bon, ça, tranquille, il n'y a
Mais
pas
je
de temps.
trouve que la fin de ce film est un peu rushée en fait. Il aurait pu se terminer un petit peu avant toute la scène finale à Port-Royal.
Ah, je sais pas, moi, l'évasion de Jack Sparrow, c'est sympa. Le seul problème de cette fin, c'est que vraiment, il y a ribambelle de personnages, genre le Commodore qui est pas du tout développé dans ce film, mais il est introduit parce que il aura une grosse intrigue dans le duel 3. En fait, c'est ça, c'est vraiment le film introductif par excellence. C'est que tu vas avoir bon nombre de noms, bon nombre de personnages, parce qu'ils vont avoir une importance plus tard.
C'est ça, tout à fait. Alors, encore une fois, je suis pas sûr que Pirates des Caraïbes était pensé comme une trilogie au départ, mais dans la trilogie originale, en tout cas, le premier fait vraiment office d'exposition du début à la fin. C'est-à-dire,
Non,
on...
mais je pense pas qu'il a été pensé comme une trilogie parce que, le retour de Barbossa le montre bien. Je
C'est
pense que c'était
vrai,
un
t'as tout à fait
personnage
raison.
apprécié des gens et
Oui.
donc ils le font revenir à la fin du 2 pour qu'il soit dans le 3 et parce que le 3 c'est pareil, hein, c'est grand guignolant, c'est plus, toujours plus.
Ah, le 3, on commence à arriver, on commence à arriver, ça commence à tirer sur la corde. Le film est visuellement magnifique. Le plan de, comment il s'appelle, de Jack Sparrow, qui est révélé vraiment à la fin du troisième film. Et c'était un bon twist, mais ça commençait à tirer un peu trop sur la corde.
Oui, et puis non, moi j'aime beaucoup la scène dans le 3 où il y a le typhon en fait.
Oui, tout le maelstrom à la fin là. Ouais.
Quand on sait que les films de pirates et tout ce qui est les films sur l'eau sont une galère à tourner.
Oui, c'est une tannée. Enfin.
Parce que tu es dépendant de la météo plus que dans un studio, hein, on va pas se mentir.
Un petit peu, ouais.
Mais voilà, donc l'histoire, pour résumer simplement, c'est Jack Sparrow. Il a été viré de son navire. Il veut récupérer son navire. Il va y avoir des péripéties. Est-ce qu'il va récupérer son navire? Oui. Mais oui. La malédiction du Black Pearl. Ce qui est très drôle parce qu'en fait, cette malédiction n'est pas attachée au Black Pearl.
Absolument pas. Le bateau n'a rien à voir là. Alors le bateau est stylé, on peut en parler parce que c'est un personnage à part entière, même si c'est pas dans cet épisode-là qu'on le voit le plus. C'est un bateau tout de bois noir, voile noire. Point, qui vogue sous pavillon pirate. C'est, on peut pas mieux le décrire en fait. Et il est un peu en décrépitude quand même.
Oui, tu sens qu'il a vécu de nombreuses batailles navales. Hein. Parce que la malédiction, qu'est-ce que c'est? La malédiction, elle est rattachée au médaillon aztèque. Comment c'est arrivé là? Comment ils ont été maudits? On le sait pas trop.
Bah, en fait, ils ont volé le trésor et le trésor avait été maudit auparavant. Ils ont volé le trésor, ils l'ont dilapidé sans Jack Sparrow, hein, bien sûr. Il avait déjà été, il y avait déjà eu la mutinerie, donc 10 ans avant le début du film. Ils ont dilapidé le trésor, mais en fait, vu que le trésor était maudit, ils ne peuvent plus mourir. Et ils n'ont plus goût à rien, ils ne peuvent donc plus rien manger, etc. Et c'est d'ailleurs le leitmotiv qui, c'est ce qui va motiver vraiment Barbossa à rechercher pendant ces 10 ans toutes les pièces qui composaient, les 852 pièces, je crois, qui composaient le trésor, parce qu'il veut manger des pommes. Ça va être un peu son running gag. Il veut manger, il veut de nouveau pouvoir sentir la nourriture. Parce que quand il décrit ce qu'il ressent, quand il mange de la nourriture a un goût de cendre. Et ils ne peuvent plus mourir. Ils ne ressentent plus rien, en fait, ni la chaleur, ni rien du tout. Et donc, ils veulent se débarrasser de cette malédiction.
Ce qui est très drôle, parce qu'à la fin du 2, il croque dans une pomme.
Évidemment.
Mais oui, et donc, et le dernier, parce qu'ils en ont retrouvé donc 851. Et la dernière. Et donc celle de Will Turner, ou Bill le Bottier, le père de William Turner. Sauf que ce médaillon, c'est pas William qui l'a, mais Elizabeth Swan.
Parce que William ne connaît rien de ses origines, finalement, il ne sait pas que c'est un descendant de pirate.
Et il a du mal à l'accepter, mais donc c'est Elizabeth qui l'a. Donc Elizabeth est enlevée par l'équipage Black Pearl pour pouvoir utiliser son sang pour casser la malédiction. Mais twist que nous on savait déjà, hein, parce que bon, on est intelligents, nous les, enfin c'est juste que c'est expliqué au début du film, mais et donc ça marche pas et on se rend compte que c'est William nanana. Et c'est sympa, mais il y a, enfin, avec cette histoire de malédiction, moi j'ai 2-3 petites questions.
Vas-y, je vais tâcher d'y répondre.
Il y a 852
piécettes
machin qui ont été éparpillées. Là. Pourquoi celle de William Turner a besoin de son sang?
Alors, il spécifie pas que c'est le sang de Turner, en fait. Il dit juste qu'il faut réunir toutes les pièces et que les pièces doivent genre être bénies dans le sang. Mais c'est pas le sang de Turner. Mais vu que eux-mêmes sont déjà maudits, leur sang n'a pas de valeur. Il faut un sang pur ou machin, un truc comme ça. Donc quand ils enlèvent Elizabeth Swann, pensant que c'est la descendante de Bill le Bottier, ils vont la garder prisonnière pour pouvoir la saigner une fois toutes les pièces remises dans le coffre. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui était saigné.
Bah totalement pas. Parce qu'ils lui coupent la main. Ils enduisent cette pièce du sang d'Elisabeth. Ça tombe et ça ne fonctionne pas. Il faut spécifiquement le sang de Turner.
Ah bah oui. Eh ben, du coup, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Oui, mais attends.
Ils sont...
Non, quand ils font ça avec Elizabeth, oui, il y a toutes les pièces dedans. Il manque Jack Sparrow, on n'en a pas volé une.
Non.
Encore.
C'est à la fin qu'il les vole pour être immortel. Et pareil, quand il la vole comment? Il y a un rituel ou c'est juste qu'il l'a prise?
Il l'a prise. Il l'a prise quand il repose les pièces. Sparrow, il fait un tour de close-up, en fait, et il pique une pièce.
Et donc, il suffit maudit. Juste de piquer une pièce pour être maudit. Mais moi, c'est ça, en fait. Il y aurait eu une pièce par membre d'équipage, j'aurais dit ok, j'aurais compris l'histoire du sang. Mais là, je t'avouerais que j'ai pas trop compris.
Bah, du coup, oui, ça rend caduque mes explications. J'avais pas à penser. Là, je te les ai apportées, mais comme ça, c'est pas un truc qui m'a tout. Je me suis tout le temps laissé porter par le film, donc je m'étais pas posé ce genre de questions. Mais maintenant que tu le dis, tu as brisé mon.
Ouais, je sais, c'était les questions de Kevin.
T'en avais plusieurs, quelques questions, ou t'as fini? Tu veux encore me briser mes rêves, c'est ça?
Oui. J'aime ça. Non, mais en vrai, moi, c'était surtout ça, parce que là, quand je regarde le... Enfin, vu que quand je regarde les films pour les émissions, j'ai tendance à essayer de chercher un peu les petites bêtes.
Ah, bien sûr.
Et là, celle-là m'a sauté à la figure. Comme ça.
Ah, comme un facehugger.
C'est ce que j'allais dire. Et je trouve ça dommage, parce que ça me fait pas sortir du film, hein, parce que le film a pas besoin de ça pour qu'on... Enfin, je veux dire, cette histoire de malédiction, en vrai... Tu regardes pas Pirates des Caraïbes pour le background, tu regardes Pirates des Caraïbes parce que les décors sont vraiment cool, la musique est cool, les bateaux sont cool, puis les films de pirates, on n'a pas tant que ça.
Non, enfin, il y en a eu plein, dans les années 50, 60 peu plus tôt, il y a eu plein de films de pirates, mais c'est terminé en fait, la mode, c'est comme les westerns, il y a eu la grande période western, et puis du jour au lendemain, pouf, ça a disparu en fait, les spectateurs voulaient voir autre chose. Et c'était même presque un pari risqué, toi, au départ, de rebalancer un film de pirate comme ça. Bon, il ouais, s'avère que...
Vraiment, c'est un film de pirate basé sur
L'attraction.
L'attraction à Disney, quoi. C'est très très fort.
C'est incroyable, c'est hallucinant. Alors, je sais plus, elle n'a plus l'attraction originale, le Pirate des Caraïbes original est très vieille. Je sais plus si c'est 56 ou 66, mais enfin, c'est super vieux.
Mais déjà, même, regarde, celle qui est en France, elle est vieille. Elle est là depuis le début, 80...
Ah oui, bah parce que ça fait partie des 92.
Et tu sens que ça a vécu, tu sens... Et il y a eu des... Disney a eu des problèmes avec ça aussi. Parce que le concepteur de la... Comment ça ?
De l'attraction.
De l'attraction, il voulait récupérer les droits sur le film.
Bah oui, normal. Enfin, il a participé, donc il doit toucher des royalties. Pour moi, à un moment donné, on exploite Pirates des Caraïbes. C'est, je crois, le titre de l'attraction originale. C'est oui, ça, c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, à raison, pour moi. Après,
non, mais après, tout dépend. Je suis pas sûr qu'il ait créé le truc. Il a peut-être créé les designs.
Ou peut-être qu'il a créé les automates. Je crois qu'il y avait une histoire que c'est ça. Je crois que c'est le créateur des automates.
Peut-être, ouais.
Auquel cas, là, non, il n'est pas dans son... C'est pas légitime, il a créé les automates, les points. D'ailleurs, l'attraction à Euro Disney a été modifiée depuis quelques années. Déjà, il y a, à la fin de la promenade en bateau, il y a Jack Sparrow, donc vraiment Johnny Depp, sur la montagne d'or qu'il y avait normalement à la fin de l'attraction. Et ben là, maintenant, il est dessus, il est en train de chanter sur une chaise, je crois, ou le cul posé sur le trésor, je ne sais plus... Et c'est vraiment Jack Sparrow qui est là.
Oui, oui, il y a un gros clin d'œil au film.
Et ils ont rajouté sur un rideau de brume quand tu montes à un moment. J'aime bien Disney. Quand tu montes sur les barques pour faire une petite descente qui t'emmène dans un nouveau décor, t'as un rideau de brume et ils projettent en fait soit la tête de Davy Jones, soit je crois que c'est Barbe Noire. Un des deux. Il projette sa tête dessus, qui te balance une punchline avant que ton bateau y descende. Ouais, ils ont modernisé un petit peu.
Oui, bah, je pense qu'ils en avaient besoin. Et elle en avait besoin, cette attraction. Bon. Donc voilà, passons à un autre aspect important de ce film, donc la bande originale.
Ah oui.
Qui est très. Qui est très bien, tout simplement. Et qui rentre dans la tête. Vraiment,
c'est ce que j'allais te dire. Elle est entêtante. Elle est très, très entêtante.
Et la musique. Enfin. Tu peux, maintenant ça fait plus de 20 ans qu'il est sorti, la musique tu l'entends, tu dis, ah, Pirates des Caraïbes, elle est vraiment indissociable du film, comme le film est indissociable de sa musique.
Elle est, les thèmes sont variés, entraînants, c'est des thèmes qui rappellent vraiment les pirates, on retrouve même la chanson emblématique qu'il y a dans l'attraction, enfin, tout fonctionne bien, et la musique est un élément super important des films de pirates, et là... Une fois que vous l'avez entendu, vous l'avez en tête pour 3 jours, quoi. C'est parti.
C'est ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé, donc les effets visuels.
Ah, j'attendais que tu abordes le sujet.
Les squelettes.
C'était une performance quand le film est sorti.
Oui, bah, ils me font vraiment penser aux squelettes dans La Momie.
Oui, c'est complètement le même genre. Tu sens que c'est un peu plus moderne, qu'ils ont poussé plus loin. Mais globalement, on est à ce niveau-là, ouais, à peu près.
Et en vrai, pour l'âge, ça va. Hein.
Non, ça va. Et j'ai été plus gêné. Mais déjà, quand je l'avais vu au cinéma, par le, tu sais, quand le singe, quand ils sont sur le bateau, à un moment donné, disons à la moitié du film, il se révèle à la lune et donc à la lumière de la lune. Donc on comprend qu'ils sont maudits et que c'est des squelettes. En fait, c'est des pirates qui sont morts à l'intérieur. Et même le singe, qui s'appelle Jack, est aussi maudit. Et il tient la pièce aztèque dans ses petites pattes à un moment donné.
Ouais.
Eh ben, je trouve que cette pièce en or est très mal faite en CGI, alors que le reste m'a moins choqué.
Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de détails en fait. Je pense qu'on peut, et donc on s'y tombe, on y est, on les voit.
Ouais, ils ont voulu appliquer tout un tas de textures, des patines et des choses comme ça, mais du coup ça fonctionne pas du tout. Alors que globalement les squelettes qui, en plus un coup la lumière de la lune disparaît derrière un nuage donc ils redeviennent humains. Donc le mix de tous ces effets numériques avec les vrais comédiens fonctionne quand même encore bien aujourd'hui. On sent que c'est du CGI, mais globalement ça reste très très plaisant, je trouve, à regarder.
Oui, et même quand, moi j'aime beaucoup quand il y a un, comme tu dis, quand il y a le passage quand ils se battent. Donc la dernière scène de grosse bataille où ils se battent.
Ils sont dans la caverne, dans la grotte où le trésor est entreposé.
Ça passe, ils passent de temps en temps sous le truc, et bah ça va.
Oui, 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 ils passent sous la lumière de la lune par moment, et l'humain redevient squelette, et puis hop, la lumière de la lune est coupée, du coup on redevient humain. Il y a tout un jeu comme ça qui reste visuellement très très acceptable.
Mais s'il y a un truc que je dois reprocher à ce film, c'est vraiment des fois les scènes de combat sont tirées en longueur. Parce que ça veut donc. C'est comme les films de KPDP. Hein,
j'allais utiliser ce mot précis, KPDP. Où,
voilà, c'est ching, 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 ching. Donc, ils tapent épée contre épée, ce qui n'est pas très utile en vrai. Mais, donc, ils vont taper trois fois, il va y avoir un temps mort, punchline. Ils vont retaper trois fois, il va y avoir un temps mort, punchline. Coupe, ça va sur une autre action avec un autre personnage qui combat un autre personnage, trois coups, punchline, et ça repart ainsi de suite. Et donc, à cette toute dernière scène de bataille, où on a sur le bateau des Anglais, on va avoir un peu sur le Black Pearl, on va voir dans la grotte, où dans la grotte il y a deux combats différents, et ben on s'y perd. Je trouve qu'elle dure trop longtemps cette scène. On s'y perd trop, il y a trop de lieux différents, trop de gens qui se battent et trop de dialogues en même temps.
Je suis assez. Alors, c'est pas celle-ci, moi, qui m'a le plus dérangé parce que du coup, il y a tellement. C'est un amalgame d'actions qui se passe à la fois sur un abordage de bateau et dans la grotte, etc. Et avec en plus, encore une fois, tous ces effets visuels, du les humains qui redeviennent squelettes, qui repassent humains, etc. Ça m'a pas dérangé, surtout qu'il y a quand même des moments assez sympas, genre quand il lui fait bouffer une. Ils sont squelettes, on leur met une grenade, je crois, ou
oui.
Un truc explosif.
Non, après, je dis pas qu'il y a des mauvaises idées, je dis pas qu'elle est nulle la scène, je dis juste qu'elle traîne en longueur.
Moi, c'est le combat contre Will Turner, la rencontre entre Turner et Johnny Depp, qui vont se battre dans le. Turner et Forgeron, ou apprenti Forgeron, ils vont se battre dans l'atelier du Forgeron. Là, j'ai trouvé ça long. C'est joli. Mais c'est long.
En fait, ça, c'est vraiment la scène d'exposition où ça va suivre tout le film, où t'as Will Turner donc, qui pense qu'il y a des règles lors d'un combat. Et Jack Sparrow, qui est un pirate, donc pour lui, l'important, c'est de gagner. Il s'en fout du reste. Et on ressent vraiment ça. Et c'est une scène d'exposition qui, certes, qui est longue, mais tous les combats sont longs, en fait, dans ce film. Parce que le film se veut aussi familial et il se veut pour tout âge. Et quand t'es un petit garçon, ce que t'aimes bien, c'est les bagarres. Et les bagarres de sabre sur des bateaux, bah c'est cool.
Oui, mais même moi, hein, je me sentais un peu comme un gosse de regarder tous ces. Enfin, ça reste des combats plutôt. Les chorégraphies sont chouettes, même si, c'est vrai, je te l'accorde, pour le coup, ils vont chercher un petit peu trop loin. Et en plus, on voit bien que c'est les acteurs qui font de l'escrime. Ce qui renforce un peu, je trouve, le côté visuel, c'est encore plus impactant.
C'est pas mauvais, mais c'est juste que des fois ça traîne en longueur parce que ça veut mettre de la punchline pour faire rire, parce que oui, c'est très comique. Enfin, c'est un film qui se veut très comique et surtout grotesque. Enfin, surtout quand Jack Sparrow est là. Jack Sparrow qui est très bon combattant, très bon truc, mais voilà, qui reste quand même un personnage très Très Jack Sparrow, je sais pas comment le dire, mais.
Bah, il est déconnecté du réel complètement, Jack Sparrow. Il est. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ah, c'est un mème qu'on a tous vu au moins une fois, et c'est très représentatif du personnage. Il est jamais complètement là, dans l'action, en fait. Et c'est ce qui le rend attachant. Mais en effet, oui, par contre, il sait très bien manier le sabre.
Ah oui, bah ça, tu t'en rends compte que. Enfin, quand Jack Sparrow fait quelque chose, il le fait bien.
Oui. Aussi étrange que ça
C'est
puisse
tout.
paraître, oui.
C'est juste qu'il a des problèmes de relation avec les gens. Mais c'est un bon. Enfin, quand il est à la barre de son vaisseau, ça se passe bien. Enfin, voilà. C'est juste qu'il a un problème relationnel avec les gens.
Et il maîtrise bien son métier de pirate. Et je voudrais aussi rebondir, tout à l'heure, tu disais Will Turner quand ils se battent tous les deux pour la première fois, donc la fameuse scène d'exposition dans l'atelier du forgeron. Turner pensait qu'il y avait des règles de combat, ce qui est le cas à l'escrime normalement, il y a des espèces de règles, quoique je suis sûr que dans une mêlée, les règles, tu les encules. Hein, mais, et évidemment, ça va mettre en avant le côté pirate de Jack Sparrow, parce que pour lui, il n'y a pas de règles. S'il peut tricher pour gagner, il le fera.
Oui, et puis il le fait plusieurs fois en plus.
Ah ben complètement. Ça renforce le côté pirate. C'est des petites choses comme ça, disséminées tout au long du film, qui te font dire que ouais, on va suivre Jack Sparrow, c'est le héros du film, mais c'est le héros est un pirate, quand même, malgré tout.
Sans foi ni loi.
Ouais, qui ne cherche que la liberté, finalement. C'est le message qui ressort à la fin de celui-ci et à la fin de tous les épisodes, hein, globalement, de Pirates des Caraïbes, c'est qu'il a une soif de liberté qui est insatiable.
Il veut voguer sur les mers, tel le vent.
Le vent, il vogue sur les mers? D'accord.
Oui, peut-être.
Waouh! Argument, contre-argument.
Ouais, on est au top.
Bah écoute, écoute. Non, vraiment,
Non,
je te cache pas que je suis fatigué.
Tu veux rajouter quelque chose sur ce film?
Mais non, pas spécialement. Je pense qu'on a bien tout dit. On l'a pas cassé un peu comme Benjamin Guett, que vous avez découvert à partir de mardi, parce que j'ai oublié de poster le lundi. Donc déjà, ça me fait plaisir, mais on peut aller en conclusion si tu veux.
Eh ben, je t'écoute.
Allez voir ce film! Enfin, peut-être plus au cinéma maintenant, ça me semble compliqué. Mais je pense que la plupart des gens qui nous écoutent connaissent déjà Pirates des Caraïbes. Et si vous ne connaissez pas Pirates des Caraïbes, voyez-le en famille, voyez même la trilogie. C'est des bons films, c'est du bon Johnny Depp. Tous les acteurs sont justes. Je recommanderais par contre encore plus que d'habitude la VO. Parce que j'avais eu la chance de le regarder la première fois que mon fils a voulu le voir. On l'a regardé ensemble et donc je l'ai mis en français. Et on perd vraiment beaucoup au niveau des intonations. D'ailleurs, Johnny Depp, dans la version française, parle normalement. Il parle comme je suis en train de vous parler. Dans la version originale, il parle comme un pirate, il a une voix qui est plus rauque, il y a beaucoup de jeux vocaux, et rien que pour ça mérite d'être vu en VO encore plus que d'habitude. Mais donc, c'est une masterclass de film de pirate, ça a ramené le film de pirate au devant de la scène, donc c'est à voir, vraiment foncé. Voilà.
Merci Olive.
Et toi?
Oui, c'est un bon film. Je le trouve un peu long, mais ça se laisse porter. Mais oui, sinon enfin, c'est un très bon film qu'on peut regarder à tout âge. Et ça, c'est bien. Une musique entraînante, des beaux visuels. Il ne se perd pas dans le fait de jouer que, enfin, de tourner toutes ces scènes de nuit. Ce qui aurait pu être un cache-misère, là, non? Il y a des scènes de jour, de nuit. Les personnages sont attachants, même surtout les personnages secondaires dont on n'a pas parlé. Gibbs, qui est un peu l'homme à tout faire de son bateau. Le duo comique sur le Black Pearl. Tous ces personnages-là sont vraiment attachants et apportent une dose d'humour que le film avait déjà, mais il se perd pas dedans, donc c'est l'avantage. Donc oui, allez-y, hein, si vous l'avez jamais vu, ce qui m'étonnerait quand même, vous pouvez y aller sans aucun problème.
Merci beaucoup. J'aimerais juste rebondir d'ailleurs sur le personnage de Gibbs parce qu'on n'en a pas parlé. C'est le second de Sparrow. Et on le voit dans l'introduction du film. Donc à l'époque, il travaillait pour la marine anglaise. Et quand on le retrouve, quand ils vont sur l'île de Tortuga, l'île des pirates en fait, avec Jack Sparrow, va là-bas pour recruter un équipage. Il est dans une fosse aux cochons et on le réveille à coups de seau d'eau. Et c'est là aussi quelque chose que vous avez dans l'attraction en fait. Dans l'attraction, c'est pas Gibbs, il lui ressemble un peu, mais c'est pas Gibbs. Il y a un automate qui est en train de dormir au milieu des cochons et avec des tonneaux de rhum tout autour de lui. Donc c'est un clin d'œil supplémentaire à l'attraction.
En même temps, l'attraction, c'est à Tortuga, donc.
C'est vrai aussi, c'est vrai.
Mais voilà, donc c'était un bon film, c'était un bon choix.
Ça fait plaisir.
Et donc c'était notre avis sur Pirates des Caraïbes. Et la semaine prochaine, nous nous attaquerons à Kingsman.
Oh yeah! Que je n'ai vu qu'une fois. Du coup, ce sera pour moi un grand plaisir de retourner dans cet univers qui m'avait laissé de bons souvenirs.
Moi aussi, même si je l'ai vu plus qu'une fois.
Le premier, j'imagine.
Oui, le premier, oui. Le meilleur. Et donc voilà, c'était tout. C'est tout pour nous. Cette semaine, un épisode un peu court, mais on était fatigués, on n'avait pas grand-chose à dire non plus.
Benjamin Gate était très court aussi, hein, il fait 30 minutes.
Après, nous
ne
sommes plus que deux, hein, donc c'est normal que ça aille plus vite. Hein.
Oui, puis j'aime bien le format un petit peu plus court comme ça, c'est peut-être plus digeste aussi pour les gens. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous préférez ce type de format donc, qui fait entre 30 et 40 minutes, ou si vous voulez qu'on retourne, ce qu'on fera pas, sur un format plus long.
Il y a de fortes chances, oui. Et bien voilà.
On n'a pas le temps, vraiment, on n'a plus le temps.
Non, et puis surtout, si on va pas faire 20 minutes de... Enfin là, on pourrait faire 20 minutes de remplissage, mais ça risque d'être chiant pour vous et chiant pour nous. Hein,
voilà, maintenant, les blagues, c'est sur KVO, la chaîne. C'est plus du tout sur Felf. Ici, c'est de l'expertise avant tout.
C'est vrai qu'on n'en a pas fait aujourd'hui.
Non, on n'a pas fait de photo promo. C'est 20 km, presque 20 km dans forêt la semaine dernière, ça use. Hein.
Et oui, donc... Passez une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour Kingsman, des bisous, abonnez-vous, likez, partagez KVO et Felf.
Oh yeah!
Ciao ciao!
Salut!